Notre invité aujourd'hui est Jean-Marc Ovas, professeur de littérature française à Sorbonne Université. Bon, il a été longtemps au CNRS et il vient d'arriver cette année à la Sorbonne, de l'autre côté de la rue. Alors, vous le connaissez bien par ses considérables biographies de Victor Hugo, hein, dont nous disposons déjà de deux gros volumes. Le premier tome publié en 2001, le deuxième publié en 2008, et le troisième, je ne sais pas s'il est sous presse ou à paraître, ou que faut-il dire, en tout cas nous l'attendons avec impatience. Il est l'auteur d'édition de Victor Hugo, qu'il a procuré, comme Les Châtiments, l'histoire d'un crime. Il a participé à beaucoup d'expositions et de numéros de revues. Et il a travaillé aussi sur la génétique dans le cadre du CNRS à l'Institut des textes et manuscrits modernes. Alors, je voulais l'inviter à parler de Hugo parce que Hugo a vécu longtemps et que l'un de mes objets, c'est fin de la littérature au sens des fins de carrière. Mais comme je vous le disais, travaillant le sujet, je ne rencontre pas le nom de Victor Hugo dans les canons de stylistes tardifs. C'est l'une des questions que je me pose et que je voudrais lui poser. Son titre est « Chantier sur l'océan, poétique du vieil Hugo ».
Merci beaucoup. Je suis très honoré et impressionné de cette invitation que vous m'avez faite à parler dans cette enceinte si prestigieuse, devant ce public d'élégance et d'élite, dans votre cours qui est depuis longtemps déjà devenu presque un mythe, à tout le moins une mythologie d'aujourd'hui, et dans ce cours si précisément mélancolique et crépusculaire que j'illustre pour commencer avec ce frontispice, comme il se doit, même si les fins de la littérature devraient plutôt commencer par des culs de lampe, pour reprendre typographiquement le jeu de la semaine dernière entre les incipites et les désinites. Mettons que ce sera la première antithèse d'une longue série, je commence ces fins par un frontispice. Il me sert, hélas surtout, d'alibi en faveur d'un titre que j'avais inconsidérément choisi il y a longtemps déjà, avec l'aide d'Elisabeth Russo, que je remercie. Je lui avais d'abord soumis ma poétique du vieil Hugo, que je trouvais très Valéry Collège de France 1937. Mais elle a insisté pour un titre un peu moins décourageant, et c'est alors que j'ai pensé à ces chantiers sur l'océan qu'on pourrait illustrer par une musique de Ravel, revisitée, comme on ne devrait pas dire, par Steve Reich. Les arpèges d'un côté, le marteau-piqueur de l'autre, ou la rencontre improbable de Vulcain et de Neptune, sinon de Mars et de Vénus. Les Hugoliens, ceci dit, ne sont pas allés chercher si loin. Ils ont reconnu les deux derniers titres d'œuvres posthumes de Victor Hugo, publiés respectivement en 1989, c'est le volume Océan, et en 1990, c'est le volume Chantier, au pluriel, par René Journet dans l'édition Lafond Bouquin de Jacques Sébachère et Guy Rosa, que je remercie d'être venu m'écouter, et pas uniquement en descendant de Goethe. Les Hugoliens pouvaient aussi très légitimement entendre, derrière ces chantiers sur l'océan, une allusion transparente, à force de synonymie, aux travailleurs de la mer, le grand roman de 1866, dont vous avez ici le frontispice, dessiné par Victor Hugo et gravé par Méole. Le dessin original, qui se trouvait à l'origine relié en tête du manuscrit du roman, est beaucoup plus sépia, mais la gravure n'est pas sans qualité. Comme dans tant de dessins dont il faisait pendant l'exil des cartes de vœux, ce qui est encore de circonstance pour trois jours, Victor Hugo y joue avec les lettres de son nom, souvent accompagnées d'une date. Ici, elle est particulièrement visible, 1866. Entre le début et le milieu des années 60, Victor Hugo a terminé la publication de ses plus grandes œuvres, en poésie comme en roman, Les Contemplations, la première série de La Légende des siècles et Les Misérables sont derrière lui. La question qui se pose alors à lui, pour parler comme Valéry, est sans doute la suivante. Que faire après Les Contemplations, La Légende des siècles et Les Misérables. Une première partie de la réponse, ce seront Les Chansons des rues et des bois, en 1865 pour la poésie, et Les Travailleurs de la mer, en 1866 pour le roman. Des œuvres moins importantes que les précédentes, mais qui peuvent tout de même soutenir la comparaison. Entre le granit de l'exil et l'océan noir, le nom de Victor Hugo, retenu par le lierre, je meurs ou je m'attache, ou mangé par la végétation, commence indiscutablement à sombrer, même s'il occupe et éclaire toujours l'horizon de ses habits rouges, présentant comme le début d'un long coucher de soleil romantique. Ce que vous voyez vers le milieu du dessin en partie basse, ce n'est pas Notre-Dame de Paris avec la flèche de Viollet-le-Duc, qui ne serait pas très ressemblante, mais Victor Hugo, pour cause d'exil, ne l'avait pas encore vue. C'est la Durande, le bateau à vapeur du roman, avec sa cheminée centrale échouée entre les rochers Douvres au beau milieu de la Manche. Une partie du roman est consacrée à la lutte d'un homme, Gilliatt, pour sauver le bateau échoué, que l'on peut à la limite ou en très gros interpréter comme le combat de Victor Hugo pour rétablir le cours de l'histoire, de l'évolution ou du progrès empêtré dans les écueils du présent, arrêté par la nature, par les éléments, par la fatalité, par le mal, peut-être symbolisé par l'oiseau noir. Heureusement, les oiseaux blancs sont deux fois plus nombreux. On peut aussi l'interpréter, et ce sera cette métaphore que je filerai aujourd'hui, comme la lutte finalement victorieuse de Victor Hugo contre la nature, contre les éléments déchaînés, contre ses contemporains qui le sont quelquefois aussi, contre lui-même enfin peut-être, pour se maintenir à flot pendant ces 20 dernières années. Il est debout sur un océan de notes, de papiers, de fragments, de copeaux, qui aboutiront à des œuvres achevées quelquefois et plus souvent encore inachevées. Ce qui tombe bien dans notre perspective, et surtout pour mon titre, c'est que le dernier livre de Victor Hugo publié de son vivant, chez Calman Levy en 1883, permet de filer la métaphore jusqu'au bout, sinon jusqu'au but. Je pourrais vous faire deviner son titre, mais ce serait un super banco, puisqu'on commence par la fin. À part les Hugoliens patentés, je ne suis pas sûr que vous le trouveriez. Le titre du dernier livre de Victor Hugo publié de son vivant, sa vie de rancée donc, porte au-delà de l'estuaire de la Rance, mais décrit une réalité qui se trouve au large de Saint-Malo et du Grand Bay, c'est l'archipel de la Manche, un ensemble de chapitres qu'il avait écrit en 1865 aussi pour les Travailleurs de la mer, puis qu'il avait retiré de son roman. Ce n'est donc qu'à partir de la fin de l'année 1883 que l'archipel de la Manche rejoint ou complète, c'est selon les Travailleurs de la mer, ce qui donne une unité inattendue à ces 20 dernières années de Victor Hugo. Je dois renoncer, pour des questions de temps, à une lecture autre que métaphorique de ces chantiers sur l'océan. Je me permets toutefois de renvoyer ceux qui le regretteraient au numéro Hugo de la revue Genesis, paru il y a 2 ans et 2 mois, diffusé par les presses de la Sorbonne Université, lequel numéro est en grande partie consacré à la question de l'écriture et de l'édition des œuvres de Victor Hugo, ces immenses chantiers sur l'océan de sa production, pour ainsi dire, continue, dont il avait commencé à programmer la publication posthume sous le titre « Océan », choisi par lui, dès 1846. Je n'en tirerai qu'une phrase, parmi les dizaines de milliers d'autres, parce qu'elle me paraît particulièrement adaptée à ce cours. Cette phrase est connue, la voici. « La vie est une phrase interrompue ». À ce détail près, je suis confus de ne pouvoir tenir, et encore, qu'une partie des promesses de mon titre, mais je l'aurais été bien davantage encore si vous n'aviez pas commencé vous-même votre première leçon par cet éloge si inattendu de votre part, mais tout de même à la fois si juste et si déculpabilisant de l'enseignement comme art de la déception. Vous le pratiquez, aviez-vous alors confié depuis 45 ans. J'aborde pour ma part ma première année de professorat, et il me plaît d'imaginer que vous avez pensé à cette antithèse si remarquablement hugolienne pour me confier cette séance de séminaire sur le roi des antithèses, comme chacun sait. À ce compte, ces fins de la littérature devraient être des débuts et ces débuts des fins. Je commence donc par les débuts des fins ou par les fins des débuts que je place sous la devise « junior est senior » parce que j'ai remarqué que l'on parlait volontiers latin entre ces murs. Ce paradoxe « junior est senior », le jeune, c'est lui le vieux, n'est pas difficile à soutenir du reste. À force de s'identifier à Chateaubriand, le jeune Victor Hugo est entré dans la carrière des lettres, sinon par la fin, du moins par des chants de déploration qui n'étaient pas tout à fait de son âge. Un peu après, il n'a toujours pas 30 ans, quand il publie un recueil de poèmes intitulé « Les feuilles d'automne ». Charles Nodier, l'autre mentor de Victor Hugo, plus près en âge de Chateaubriand que de lui, mais géographiquement beaucoup plus proche de lui que de Chateaubriand, puisqu'ils sont nés tous deux à quelques mètres de distance dans Besançon, vieille ville espagnole, Charles Nodier consacre l'ouverture de son long et remarquable compte-rendu des feuilles d'automne dans la Revue de Paris de décembre 1831 à ce qui lui semble être une véritable incongruité. Il commence par le titre qu'il fait suivre d'un point d'exclamation. « Feuilles d'automne, que ce titre serait heureux pour les dernières poésies d'un vieillard, pour ses pensées assujetties au maître et à la prosodie qu'il laisse tomber une à une autour de sa fosse, avec les dernières fleurs et les dernières feuilles des arbres qu'il y a plantés. Telles devaient être les inspirations de cet homme du Galèse que nous a raconté Virgile. La Fontaine aurait pu l'attacher à ces vers délicieux où il se demande tristement s'il a passé le temps d'aimer. Il exprime bien la double puissance d'une organisation tendre et passionnée, mais vaincue par la nature. Cet élan d'une âme qui vit toujours au milieu des ruines d'un corps qui tombe. » Nodier continue sur ce ton en passant progressivement aux confidences, en reconnaissant qu'il a quelque intérêt personnel à croire à l'existence, je le cite, « d'étincelles ardentes sous la cendre des vieux volcans », à la possibilité, je le cite toujours, « d'éveiller une muse une fois que l'on a dépassé la moitié d'un siècle ». Il avait 51 ans quand il écrivait cet article. Ces feuilles d'automne, continue-t-il en semblant tout à fait perdre de vue son sujet, comme s'il avait lu par avance « Tristesse d'Olympio » ou « La préface des contemplations », ces feuilles d'automne qu'il feint de prendre au pied de la lettre, je ne puis les rouler sous mes pieds sans me rappeler d'autres pieds qui les faisaient crier près de moi ou qui les écartaient avec soin à chaque pas pour ne pas trahir le mystère de nos promenades discrètes. Ces pieds-là ne se meuvent plus, ces feuilles d'automne ne sont plus les mêmes et cependant, les vieilles souches qui les ont portées vont reverdir bientôt. Il n'y a que l'homme qui n'est qu'un printemps, mais le poète est capable d'en avoir deux. Bref, avec ses feuilles d'automne, écrit plus ou moins un Charles Nodier apparemment endeuillé, Victor Hugo commence par la fin. Il coupe l'herbe sous le pied de ses contemporains plus âgés, qui incarnent la littérature de leur temps et qui pourraient, eux, grâce à ses prestiges, rajeunir. En un mot, en se vieillissant inconsidérément, il les empêche à la fois d'être vieux et de paraître jeunes. Après cette digression, Nodier revient à son sujet de la plus bizarre des manières, en appelant Victor Hugo par son seul prénom, ce qui est très rare et donc particulièrement frappant dans la littérature de cette époque-là. « Il fallait, Victor, laisser ces feuilles d'automne à vos vieux amis. Vous avez pris assez à la postérité pour ménager un peu cette génération qui s'efface et qui aimait votre gloire, dont elle ne jouira pas longtemps. Il faut des couronnes plus fraîches à vos 29 ans, déjà comblé de tant de succès, encore plein de tant d'espérance. » Cet article, qui est aussi le dernier de Charles Nodier sur la poésie de son jeune compatriote, ne commence qu'après cette longue captatio benevolentiae. Il y revient encore à la fin en expliquant que, ses jours se faisant rares à son âge, ses feuilles d'automne l'avertissent qu'il ne verra peut-être plus celles du printemps. C'est ainsi qu'il prend congé de Victor Hugo dans la Revue de Paris en décembre 31, en lui reprochant avec une bienveillance toute paternelle de s'être installé sur un terrain qui n'était pas le sien. Vous avez deviné la résolution dialectique du junior est senior, d'autant que le latin se lit dans les deux sens. À ce junior est senior de la jeunesse va immanquablement faire écho un senior est junior de la vieillesse, et vous allez trouver que je ne me suis pas beaucoup fatigué pour mon plan. Ce senior est junior, le voici. Nous sommes une bonne trentaine d'années plus tard. Nodier est en effet mort depuis bien longtemps. C'est la loi. Nul ne peut s'y soustraire. Victor Hugo lui-même, à 63 ans, est alors bien plus âgé que Nodier lorsqu'il écrivait son article sur les feuilles d'automne. Et ce titre, senior est junior, que vous avez sous les yeux sous sa forme manuscrite, est celui d'un poème emblématique des chansons des rues et des bois. Emblématique, pourquoi ? Parce que c'est une devise qui sonne comme un programme. Victor Hugo, qui n'a plus rien à prouver, s'amuse à annexer désormais, ou à tenter d'annexer désormais, non plus le terrain de ses aînés, mais ostensiblement celui de ses cadets, en leur faisant la morale par-dessus le marché. Le vrai jeune, c'est celui qui est vieux. Entre 1859, publication de la première série de La Légende des siècles, et 1865, publication des chansons des rues et des bois, s'est en effet développé en France le mouvement plus ou moins collectif qui aboutira au premier Parnasse contemporain. Victor Hugo le suit à distance, depuis l'exil, mais avec une intuition très juste de ce qui est en train de se passer. La dédicace des Fleurs du Mal au poète impeccable, au parfait magicien S-lettre française Théophile Gautier, notamment, ne lui a pas échappé, si bien qu'il choisit pour son nouveau recueil la forme unique du quatrain de vers courts, qui était celle utilisée exclusivement par Théophile Gautier dans Émaux et Camées. Vous en avez un exemple sous les yeux avec les deux premiers vers de la première section de ce long poème, qui sont bien des octosyllabes. La différence de couleur vient de ce que Victor Hugo a collé dans son manuscrit bleu réservé à l'édition, sur lequel il s'est contenté d'ajouter le titre, des feuilles détachées de son album blanc de 1865. C'est un poème sur la succession des générations au sens large, qui commence par ces deux exclamations étonnantes, « comme de la source on dévie, qu'un petit-fils ressemble peu ». Le futur auteur de L'art d'être grand-père n'est pas encore grand-père, mais il a rayé d'un trait de plume le mot dérivé qu'il avait écrit d'abord, qu'un dérivé ressemble peu, pour le remplacer par un petit-fils prémonitoire. Depuis Hernani et les Burgraves, il a bien souvent mis en scène la dégénérescence dans la succession des générations, mais il l'a rarement fait avec une telle économie de moyens. Ce n'est plus la longue galerie de portraits du troisième acte d'Hernani, ce sont 8 syllabes. Pas une de plus, et un emploi à l'absolu du verbe « ressembler » particulièrement étonnant. Le TLF lui-même n'en signale aucun autre pour ce verbe transitif indirect, c'est-à-dire toujours suivi d'un complément, qui manque ici. Si l'on se risquait à le corriger, on entendrait trop distinctement que ces petits-fils littéraires ne lui ressemblent pas et qu'ils ont trop dévié de leur source. Dans le rythme d'Émaux et Camées, les chansons des rues et des bois forment bien, comme l'écrit Jacques Sébachère, la farce la plus inattendue que Victor Hugo a jouée à ses disciples et rivaux. Et comme ce changement spectaculaire de forme, surtout après les longs poèmes en alexandrin de la Légende des siècles, s'accompagne d'un net rajeunissement de l'inspiration, Victor Hugo s'inquiète soudain, avant de lancer son recueil, de sa réception, ce qui est assez inhabituel chez lui. Il venait certes d'être échaudé par le médiocre accueil fait à son essai sur Shakespeare en 1864, qui était entre parenthèses aussi une charge contre l'art pour l'art et les nouvelles orientations de la poésie française. Le terrible Francisque Sarcey en avait aimablement salué la parution en titrant son article du Nain jaune d'une expression bien connue renouvelée de Plutarque, « Le grand Pan est mort ». Et Victor Hugo avait écrit à Auguste Vacry 15 jours plus tard après la sortie de cet article, qui n'était pas le seul de son espèce, « Je crois que je commence à être de trop. Je vais garder le silence » pendant 4 ou 5 ans. La date de la lettre d'où est tirée cette déclaration étonnante, 22 mai 1864, fait rêver, c'est le jour de sa mort, à 21 ans près. Déclaration d'autant plus étonnante que Victor Hugo prépare, au même moment, à peu près, la publication des chansons des rues et des bois, comme le montre son carnet de travail du printemps et de l'été de 1864, que j'ouvre au hasard, ou presque, grâce à ce merveilleux outil qu'est Gallica, le moteur de le site des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Vous voyez, en voyant cette page de carnet, que Victor Hugo n'a pas l'air inoccupé. Les pages sont couvertes d'écritures diverses et peu lisibles, jetées rapidement, dans tous les sens, à l'encre et au crayon. Les fameux traits verticaux ou obliques signalent les fragments utilisés. En haut à droite, le seul passage non biffé est écrit au crayon, ce qui le rend encore moins lisible que les autres. Le voici agrandi et remis dans le sens de la lecture. Il parle des chansons des rues et des bois, c'est écrit au sommet en abréviation, et voilà ce qu'il dit. « Que dira-t-on d'entendre ce chant d'alouette sortir de mon trou de hibou ?» Cette question anticipé et formulé sur un mode propre à l'écriture même du recueil, car vous avez entendu qu'il s'agissait ici encore de 2 octosyllabes, c'est-à-dire de la fin d'un quatrain ébauché. Mais à défaut d'avoir cette question sous une forme aboutie, nous avons mieux, grâce au privilège que nous donne, sinon l'âge, du moins la distance, nous avons la réponse, et même plusieurs réponses, à cette interrogation inhabituellement inquiète. Nous l'avons d'abord sous sa forme brutale et comique, dans les articles publiés après la sortie du recueil par Barbet d'Orvilly ou par Louis Veuillot. Je choisis le second parce qu'on l'entend moins souvent. Monsieur Hugo est né en 1802, rappelle Louis Veuillot dans son article sur les chansons des rues et des bois, ce qui le mène aux environs du point de maturité où se trouvaient les deux vieillards qui s'introduisirent près de Suzanne. Sous la copie du tableau que Rubens a fait de l'entreprise de ses amoureux, le graveur a écrit « Turpe senilis amor ». Ce tableau, le voilà, le graveur, c'est Paulus Pontius, qui interprète la Suzanne et les vieillards de Rubens. C'est ici une épreuve du Petit Palais, qui est conservée au Petit Palais. On lit distinctement, au pied de la gravure, la légende « Turpe senilis amor », deuxième partie du vers d'Ovid, « Turpe senex miles, turpe senilis amor ». C'est une honte ou une infamie qu'un soldat âgé ou que l'amour chez un vieillard. Nous sommes assez loin du sublime sénile. Louis Veuillot reprend. Il n'en faut pas davantage ici. Le mérite que j'y loue, c'est la sincérité. Monsieur Hugo se l'est donné pleinement à la Diogène. Si les vieillards de Suzanne chantaient, nul doute qu'ils chantassent les chansons des rues et des bois. Nous avons là toute leur âme. C'est abominable. Vous allez me dire que c'est du Veuillot, ce vieil ennemi catholique polémiste de Victor Hugo. Passons à une autre réponse, donc, qui se trouve dans les samedis d'Armande Pontmartin, un émule de Sainte-Beuve, comme son titre l'indique, mais un et même plusieurs crans au-dessous. Ce qui m'a intéressé dans le paragraphe que je vous lis de l'article de Armande Pontmartin, c'est sa proximité étonnante avec le vieux saltimbanque de Baudelaire que nous avons entendu au premier cours et qui avait été publié 3 ans plus tôt dans la presse, dans le journal La Presse. Les grands poètes sont de grands artistes, écrit Armande Pontmartin. Les artistes sont un peu comédiens, et la manie des comédiens est de ne pas vouloir vieillir. Peut-être M. Hugo a-t-il publié ce volume comme les vieux ténors mettent une perruque noire et du rouge avant d'entrer en scène. Troisième et dernier son de cloche que je voudrais évoquer, la réception du recueil parmi les jeunes poètes contemporains à qui il était après tout en partie destiné. Nombre d'entre eux sont alors réunis dans une nouvelle revue hebdomadaire qui s'appelle L'Art, qui a le mérite d'être née une semaine après la sortie des chansons des rues et des bois. Elle ne durera certes pas longtemps, 10 numéros tout juste, mais on la connaît encore parce qu'elle est à l'origine directe du Parnasse contemporain, qui prend sa suite immédiatement. Comme son titre l'indique, L'Art, elle vénère Théophile Gautier et ses émaux écamés. L'influence du jeune Catulle Mendès, une des étoiles montantes du mouvement, y semble prépondérante. Et ses jeunes collaborateurs prometteurs s'appellent entre autres François Copé, Léon Dierks ou Paul Verlaine. C'est dans le premier numéro de ce journal que le jeune Verlaine, 21 ans, sous prétexte de prendre la défense de Victor Hugo contre les attaques de Barbet d'Orvilly, énonce tranquillement cette double énormité. Certes, donc on est une semaine après la publication des chansons des rues et des bois, certes, à mes yeux, les contemplations ne sont pas le chef-d'œuvre d'Hugo, tant s'en faut. Je les trouve même son livre le plus faible. Mais ce n'est pas une raison pour insulter au génie, même défaillant. Il y a un petit astérisque après son livre le plus faible et une note en caractère gras avec les chansons des rues et des bois. On n'en saura pas plus pour ce numéro. Le vrai compte-rendu des chansons des rues et des bois paraît 15 jours plus tard, donc 2 numéros plus tard, sous la plume d'un camarade de jeunesse de Verlaine, bien oublié aujourd'hui, qui s'appelle Mio Frochot, qui publie un compte-rendu assez long, mais très clair, « L'erreur commise par notre grand poète est de croire que l'on pouvait redevenir jeune. On n'a qu'une jeunesse. » Formulation qui est exactement l'inverse de ce que Nodier avait écrit au moment de la publication des Feuilles d'automne, quand il disait que les poètes pouvaient avoir de jeunesse. Il s'efforce, mais en vain, d'être gai, comme elle est triste, cette joie. C'est là, en effet, l'erreur capitale qui se ressent dans tout le volume, d'avoir cru pouvoir impunément redevenir jeune à volonté. L'entreprise était au-dessus des forces humaines. Cela perce dans chaque ligne, on le sent dans chaque vers, etc., etc. Bref, à la fin de l'article, le critique renvoie pour finir le poète chassé sur d'autres terres que celles de la jeunesse. Qu'il nous soit permis, en terminant cette rapide étude, de souhaiter que Victor Hugo revienne promptement à son ancienne manière, c'est-à-dire qu'il laisse de côté ce petit ver où son génie puissant semble mal à l'aise, et dernièrement encore employé d'une façon si merveilleuse par Théophile Gautier dans Émaux et Camée, et qu'il produise de nouveau un livre comme La Légende des siècles, évidemment le chef-d'œuvre poétique du XIXe siècle. On le voit, la volonté d'un artiste au sommet de son art d'intégrer les évolutions de ses jeunes contemporains n'est pas sans danger. Il paraît même à bien des égards plus difficile de se rajeunir que de se vieillir. En tout cas, les chansons des rues et des bois, avec son senior est junior provocant, offrent à ce sujet un cas d'école, parnassienne certes, mais aussi universelle. On ne peut qu'admirer la leçon qu'en avait tirée sur le champ l'amusant Timothée Trim dans le Petit Journal, en tête de son compte-rendu de 1865. Victor Hugo, écrivait-il, a eu un destin singulier. Il aura, dans sa jeunesse, été discuté par les vieux. Il est, dans sa vieillesse, discuté par les jeunes. Ce qui est certain, c'est que Victor Hugo, déjà refroidi par l'accueil fait à son William Shakespeare en 1864, n'est guère satisfait en 1865 de la réception des chansons des rues et des bois. Il revient donc à son idée de garder désormais un silence prudent. Et telle sera bien la première de ces nouvelles stratégies, moins frontales, plus subtiles, dont je voudrais donner deux exemples. La première stratégie, c'est donc de se taire, du moins pour ce qui concerne les recueils de poèmes. Il s'y tient pendant 7 ans, puisqu'il ne revient sur le devant de la scène éditoriale poétique qu'avec « L'année terrible », recueil publié en 1872, donc avec un peu de recul, sur l'année 70-71. Je vous montre ici le faux titre de l'exemplaire de l'édition originale avec envoi au pied de Madame Judith Mendès et une belle signature, afin que vous constatiez au passage que Victor Hugo ne perd pas de vue la jeune génération, puisque Judith Mendès n'est autre que l'épouse de Catulle Mendès, l'écrivain prometteur qui fédérait les poètes à l'époque de la revue L'Art, puis du premier Parnasse contemporain. L'heureux propriétaire de cet exemplaire se trouve dans cette salle, je le sais, et comme nous avons parlé la semaine dernière du prix des œuvres d'art, je peux ajouter qu'il étudiera toutes les propositions d'achat à l'issue de cette séance. Plus sérieusement, à ce sujet, je ne ferai qu'esquisser une digression possible, comme dit Valérie. Digression inspirée par le beau livre d'Edouard Graham sur la collection de Jean Bonnat intitulé « Passage d'encre ». Cette digression, ce serait de considérer les ultimes envois d'écrivains comme des bouteilles jetées à la mer ou à l'océan de la postérité. En personnalisant chaque exemplaire, ils dessinent en quelque sorte, pour parodier le titre du dernier ouvrage de la première série des œuvres posthumes de Victor Hugo, des post-scriptums de leur vie. Contrairement aux services de presse plus ou moins contraints à quoi équivalent souvent les envois sur les premières œuvres, la part d'intentionnalité grandit avec l'âge. Si l'Archipel de la Manche, en 1983, est bien le dernier livre de Victor Hugo publié de son vivant, il semble que ce dernier n'en a signé aucun exemplaire. Ses derniers envois se trouvent respectivement sur sa dernière pièce de théâtre publiée, Torquemada, en 1882, et sur le tome 5e et dernier de La Légende des siècles, en 1883. On peut considérer que l'envoi à Le Comte de Lisle sur Torquemada était une manière, pour Victor Hugo, de désigner son successeur à l'Académie française. Ce dernier envoi à mon cher Lecomte de Lisle, d'une écriture un peu épaisse et tremblée, est célèbre pour sa faute d'orthographe sur le nom du poète, puisque Lisle s'écrit en un seul mot, mais elle ne prête pas à conséquence. À Lecomte de Lisle succéderait quelques années plus tard, toujours au fauteuil de Victor Hugo, donc, l'historien Henri Houssey, le fils du dédicataire du Spleen de Paris. Lui aussi semblait avoir été prévu, si l'on en juge par cet envoi, sur la pitié suprême. L'occupant suivant du fauteuil, ce sera le futur maréchal Lyautey, élu en 1912, reçu en 1920, mais là, nous n'avons pas d'envoi. Dernier exemple, tout récemment retrouvé dans la bibliothèque de Paul Bourget, qui est aujourd'hui conservée dans la bibliothèque de Fels à l'Institut catholique de Paris, et que je dois à l'obligeance de Madame Anselenetter, que je remercie, cet envoi à Paul Bourget sur le Torquemada, toujours, de Victor Hugo, qui dessine un lien inattendu et intéressant entre deux univers, deux siècles, et pourquoi pas, certains en ont émis l'hypothèse, entre Victor Hugo et Marcel Proust, si l'on admet que le nom du grand écrivain de la recherche, Bergotte, doit quelque chose, et peut-être davantage, à celui de Bourget, dont il est presque l'anagramme. Fin de la digression et retour à l'année terrible, qui met un terme pour Victor Hugo à 7 ans de silence poétique conservé prudemment après l'échec relatif des chansons des rues et des bois. Dans ce recueil, loin de reprendre ces grandes constructions architecturées de l'exil, comme Châtiment, Les Contemplations ou La Légende des siècles, il revient avec un gros livre, certes, mais avec une table des matières minimaliste, un livre agenda, une poésie comme de circonstance, qu'on pourrait croire écrite par un journaliste. Je vous montre la table des matières de l'édition illustrée parce qu'elle est plus synthétique. Le livre s'appelle « L'année terrible ». Chaque livre porte, chaque chapitre, chaque partie porte un nom de mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Vous avez toute l'année 70-71. Victor Hugo est alors comme ces dieux de l'Olympe qui prennent une forme humaine pour se manifester. Il s'agit certes d'un nouveau recueil de Victor Hugo, mais d'un Victor Hugo qui se serait, par exemple, déguisé en Banville, lequel publiait alors ses poèmes sur la guerre dans les journaux, avant de les reprendre en volume, dans l'ordre de leur publication. Ce n'est qu'une apparence, on s'en doute, car la construction de ce volume est en partie en trompe-l'œil, mais on pouvait aisément s'y laisser prendre. Après le chant d'alouette sortant du trou de hibou, c'est un miroir aux alouettes. La stratégie a été nettement rectifiée, dans le bon sens, car la réception de l'année terrible est bien meilleure que celle des chansons des rues et des bois. Certes, les positions politiques de son auteur sont fort discutées, contestées, notamment sa modération devant la Commune, mais on ne remet plus vraiment en question sa situation littéraire. Il est de nouveau accepté parmi les poètes contemporains. Deuxième et dernier exemple de la stratégie tardive de Victor Hugo, à l'échelle d'un seul poème cette fois, mais pas de n'importe lequel. Plutôt que d'écraser la jeunesse littéraire par un livre entier et d'être aussi mal reçu dans ses petits journaux où se prépare l'avenir, pourquoi ne pas faire comme elle, c'est-à-dire publier de petits poèmes inédits en revue, par-ci, par-là, bref, repartir, pour ainsi dire, de zéro. Se faire passer pour un débutant. Le phénomène est d'autant plus remarquable que Victor Hugo a, sauf rares exceptions, toujours refusé, dans la mesure du possible, de publier ses œuvres littéraires dans la presse avant de les publier en volume, qu'il s'agisse de poèmes ou de romans. Et cette fois, il va frapper un grand coup. Nous sommes en juillet 1872. L'année terrible a été publiée en avril, 3 mois plus tôt. L'une des revues les plus importantes de la jeune génération poétique ne s'appelle plus L'Art, mais La Renaissance littéraire et artistique. Elle est dirigée par deux jeunes gens entreprenants, Émile Blémont et Jean Écart, qui sont tous deux dans le fameux coin de table de Fantin-Latour, aujourd'hui au musée d'Orsay. La scène du musée d'Orsay. Deuxième question à 1000 euros, non pas certes où sont Verlaine et Rimbaud, mais où sont Écart et Blémont. Ils sont debout, de face. Celui qui porte en haute forme, c'est Pierre Elzéard, le futur gendre de Richard Lesclide. Le blond du milieu, c'est Émile Blémont, que nous devons aussi remercier, entre autres, pour ce tableau. C'est lui qui l'a racheté en Angleterre, puis l'a offert au Louvre. Jean Écart est à ses côtés. Ce tableau nous permet de suggérer que cette Renaissance littéraire et artistique est une revue de premier plan, revue à laquelle le regretté Michael Pakenham avait consacré sa thèse. Elle ne durera pas 10 semaines comme L'Art, mais plus de 3 ans, et la liste de ses collaborateurs est très impressionnante vu de l'avenir. Goncourt, Zola, Cladel, Charles Cros, José María de Heredia, le poète qui revient à la mode depuis une semaine grâce à William Marx et à cette puissante enceinte, mais aussi Villiers-l'Isle-Adam, Verlaine qui y publie ses Ariettes oubliées, Mallarmé encore, j'en passe, et des meilleurs. Eh bien, c'est à cette revue d'avant-garde, pour reprendre le sous-titre de Michael Pakenham, que Victor Hugo envoie, pour publication, le premier sonnet qu'il ait jamais écrit, à 70 ans passés. Il a bien retenu la leçon des chansons des rues et des bois, il n'écrase pas tous ces sonnettistes patentés par un recueil de 20 ou de 118 sonnets, non, il se contente d'en envoyer un, avec modestie, comme s'il était tout bonnement un lycéen de Saint-Flour, de Morse-la-Jolie, de Mâcon ou de Charleville-Mézières. Le résultat ne se fait pas attendre. Au lieu d'obtenir péniblement une descente en flèche 3 semaines plus tard dans les dernières pages de la revue à la mode, on lui donne, le jour même ou presque, 27 juillet 1872, la une du numéro avec ce titre sensationnel, un sonnet de Victor Hugo. Vous voyez qu'il est accompagné d'une petite note en bas de page, Cette note, la voici, ce sonnet, le seul que Victor Hugo ait jamais écrit, c'est dit dans la presse, a été adressé à Madame Judith Mendès. Judith Mendès, c'est la femme de Catulle Mendès, mais c'est aussi, et d'abord, j'aurais dû commencer par là, mais vous le saviez tous, la propre fille de Théophile Gautier, l'auteur des Mots écamés. En juillet 1872, elle avait encore 26 ans, Victor Hugo en avait 70, ils avaient donc 44 ans d'écart. J'agrandis du coup le sonnet pour que nous puissions le lire rapidement, car il risque d'être bientôt retiré de toutes les bibliothèques. Ave Dea Moritorus te salutat. Bonjour déesse, celui qui va mourir te salue. La mort et la beauté sont deux choses profondes qui contiennent tant d'ombre et d'azur qu'on dirait deux sœurs également terribles et fécondes, ayant la même énigme et le même secret. Ô femme, voix, regard, cheveux noirs, tresses blondes, vivez, je meurs. Ayez l'éclat, l'amour, l'attrait. Ô perle que la mer mêle à ses grandes ondes, ô lumineux oiseau de la sombre forêt. Judith, le prénom au début du premier tercet, c'est aussi beau que le Victor dans l'article de Naudier. Judith, nos deux destins sont plus près l'un de l'autre qu'on ne croirait à voir mon visage et le vôtre. Tout le divin abîme apparaît dans vos yeux, et moi, je sens le gouffre étoilé dans mon âme. Nous sommes tous les deux voisins du ciel, madame, puisque vous êtes belle et puisque je suis vieux. 44 ans d'écart, me direz-vous, mais que faisait son père, sinon son mari? Eh bien, c'est une histoire étonnante, car voici ce que Théophile Gautier avait écrit dans son fameux rapport commandé par l'État sur les progrès de la poésie française depuis 1830. C'était en 1867, soit deux ans après la publication de ses chansons des Rues et des Bois, qui reprenaient si ostensiblement la forme des Mots écamés. Le rapport de Théophile Gautier est publié en 68. Judith avait alors 22 ans. Voilà ce qu'écrit Théophile. On a remarqué toutefois que Victor Hugo, le grand forgeur de maîtres, l'homme à qui toutes les formes, toutes les coupes, tous les rythmes sont familiers, n'a jamais fait de sonnet. Goethe s'abstint aussi de cette forme pendant longtemps, ces deux aigles ne voulant sans doute pas s'emprisonner dans cette cage étroite. Cependant, Goethe céda, et tardivement, il composa un sonnet qui fut un événement dans l'Allemagne littéraire. Goethe avait en effet 58 ans quand il composa son premier sonnet. Il avait rencontré à Iéna Wilhelmine Herzlieb, dite Mina, dont la grâce, la jeunesse, 18 ans, et peut-être le nom, Herzlieb, c'est un programme, le cœur et l'amour, lui inspirèrent une grande passion. C'est sur ces entrefaites que le poète Zacharias Werner proposa un concours de sonnets pour célébrer Wilhelmine. Goethe se lança dans cette course, prenant plaisir, dit-on, à surmonter sa passion en contraignant son inspiration dans les formes rigoureuses du sonnet. Presque comme Victor Hugo plus tard, il écrivit dans son journal, à la date du 11 décembre 1807, ce seul mot « sonnet », avec un point d'exclamation. Car on connaît aussi, pour la même raison, Hugo l'a écrit dans son journal, le jour où il a écrit son sonnet à Judith, c'était le 12 juillet 1872. Puis Goethe composa coup sur coup, non pas un, comme le dit Théophile Gautier, mais 17 sonnets qui forment un seul cycle. On raconte qu'il y en eut même 20, mais que 3 furent perdus. Il n'en écrivit jamais d'autres. L'histoire ne dit pas s'il remporta le concours, mais ce cycle de sonnets marque le seuil de la dernière manière de Goethe poète, avec notamment l'arrivée du motif du renoncement amoureux, si important dans les affinités électives, et dans Wilhelm Meister. Les points communs avec Victor Hugo sont troublants. Les sonnets tardifs de Goethe, expression d'une nouvelle esthétique, se placent sous le signe de la passion amoureuse pour une jeune femme et de la rivalité littéraire. À l'époque de son sonnet, Judith a certes 8 ans de plus que Mina, mais vous avez eu le temps de calculer que l'écart d'âge est plus grand de 3 ans dans le cas de Victor Hugo. Et là-dessus se greffe avec le sonnet des questions de forme, ces questions qui intéressaient tant Paul Valéry. L'un de ses articles majeurs à ce sujet, conférence radiodiffusée de 1935 pour le 50e anniversaire de la mort de Victor Hugo, s'intitule justement « Victor Hugo, créateur par la forme ». Dans ses réflexions, qui excèdent largement cet article sur la poétique du vieil Hugo, Valéry y revient régulièrement. Son expression la plus aboutie, par ses erreurs comme par ses intuitions, aussi considérables les unes que les autres, se trouve dans une digression d'un autre article fameux, plus ancien, 1924, « Situation de Baudelaire. Il est question, dans ce passage, des œuvres de Victor Hugo publiées après la mort de Baudelaire. Je leur attribue une importance technique infiniment supérieure à celle de tous les autres vers d'Hugo. Ce n'est pas le lieu, et je n'ai pas le temps de développer cette opinion. Je ne ferai qu'esquisser une digression possible. Ce qui me frappe dans Victor Hugo, dit Paul Valéry, c'est une puissance vitale incomparable. Puissance vitale, c'est-à-dire longévité et capacité de travail combinées, longévité multipliée par capacité de travail. Pendant plus de 60 années, cet homme extraordinaire est à l'ouvrage tous les jours, de 5 heures à midi. Il ne cesse de provoquer les combinaisons du langage, de les vouloir, de les attendre et de les entendre lui répondre. Il écrit 100 ou 200 000 vers et acquiert par cet exercice ininterrompu une manière de penser singulière que des critiques superficielles ont jugée comme il le pouvait. Mais au cours de cette longue carrière, Hugo ne s'est pas lassé de s'accomplir et de se fortifier dans son art. Et sans doute, il pêche de plus en plus contre le choix. Il perd de plus en plus le sentiment des proportions, il empâte ses vers de mots indéterminés, vagues et vertigineux, et il y place l'abîme, l'infini, l'absolu, si abondamment et si aisément que ces termes monstrueux en perdent jusqu'à l'apparence de profondeur qui leur est accordée par l'usage. Mais encore, quels vers prodigieux, quels vers auxquels aucun vers ne se compare en étendue, en organisation intérieure, en résonance, en plénitude, n'a-t-il pas écrit dans la dernière période de sa vie ? Dans la corde des reins, dans Dieu, dans la fin de Satan, dans la pièce sur la mort de Gautier, l'artiste septuagénaire qui a vu mourir tous ses émules, qui a pu voir naître de soi toute une génération de poètes et même profiter des enseignements inappréciables que le disciple donnerait au maître si le maître durait, le vieillard très illustre atteint le plus haut point de la puissance poétique et de la noble science du versificateur. Hugo n'a point cessé d'apprendre par la pratique. J'ai parlé un peu légèrement peut-être des erreurs et des intuitions aussi considérables les unes que les autres dans cette digression. La partie la plus intéressante est à mes yeux celle, très neuve, du moins pour Victor Hugo, de l'idée qu'il a pu tirer des leçons de ses disciples. Quant aux erreurs, elles ont été relevées depuis longtemps par la critique. Dans la liste des œuvres de la dernière période de Victor Hugo, Valéry a presque tout faux. Publiés certes tous deux après la mort de Victor Hugo, tous deux inachevés, Dieu et la fin de Satan, sont de l'artiste quinquagénaire et non pas septuagénaire. En revanche, la corde des reins, qui est aussi posthume, est bien une sorte d'appendice à l'année terrible, et la pièce sur la mort de Gautier est fatalement ultérieure à la mort de Gautier, le 23 octobre 1872, 3 mois, si vous suivez bien, après la publication à la une de la Renaissance littéraire et artistique du sonnet à sa fille, dont il avait inconsciemment passé commande dans un rapport officiel du Second Empire. Notons au passage que Valéry se garde bien de donner des exemples concrets d'innovations formelles que Victor Hugo pourrait devoir à ses successeurs. Pas un mot chez lui, par exemple, sur le sonnet à Judith. Il s'interrompt cependant volontiers dans différentes conférences, quelquefois même en conclusion, pour dire des vers de Victor Hugo à l'appui de sa théorie. Mais ces vers qu'il dit, ce sont toujours les mêmes, et il les tire immanquablement du même poème, celui écrit pour la mort de Théophile Gautier, et singulièrement la fin de ce poème, son dernier bloc de vers, qui compte 17 alexandrins. Il termine par exemple ainsi sa conférence radiodiffusée de 1935, en se contentant de les introduire par ce paragraphe, « Mais comment achever de parler de cet homme extraordinaire ?» Très bonne question. « Sans invoquer sa propre voix, sans doute, les plus beaux vers qu'il ait fait et peut-être qu'on n'ait jamais fait. » Donc, c'est Valéry qui dit que les vers qu'il va dire sont non seulement les plus beaux vers de Victor Hugo, mais sans doute les plus beaux vers de la langue française. Les voici, continue Valéry. Il termine la pièce qu'il a écrite à l'âge de 70 ans au sujet de la mort de Théophile Gautier. Voilà l'édition originale du tombeau de Théophile Gautier avec sa date 1873. Donc elle est publiée juste un an après la mort de Gautier. Ce recueil regroupe un peu plus de 80 poètes de différentes nationalités qui s'expriment dans différentes langues. Ils sont tous rangés par ordre alphabétique, sauf Victor Hugo, qui est en première position, avec cette impression bicolore noire et rouge qui caractérise ce livre. La dernière page du poème, la voici. Le dernier bloc de 17 vers, le voici. C'est celui-là que cite Valéry. Passons, car c'est la loi, nul ne peut s'y soustraire. Tout penche, et ce grand siècle, avec tous ses rayons, entre en cette ombre immense où pâle nous fuyons. Oh, quel farouche bruit font dans le crépuscule les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule. Vous retrouvez les mystiches où Malraux a puisé le titre de son des entretiens crépusculaires, justement avec le général de Gaulle, publié un an après sa mort en 71. Oh, quel farouche bruit font dans le crépuscule les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule. Les chevaux de la mort se mettent à hennir et sont joyeux, car l'âge éclatant va finir. Ce siècle altier qui sut dompter le vent contraire expire. Ô Gautier, toi, leur égal et leur frère, tu pars après Dumas, Lamartine et Musset. L'onde antique est tarie où l'on rajeunissait. Comme il n'est plus de Styx, il n'est plus de Jouvence. Le dur faucheur, avec sa large lame, avance pensif et pas à pas vers le reste du blé. C'est mon tour. Et la nuit emplit mon œil troublé, qui, devinant hélas l'avenir des colombes, pleure sur des berceaux et sourit à des tombes. Comme Valéry, j'aurais bien aimé, et vous aussi, m'arrêter sur ces vers si sublimes, sur cet œil troublé, mais ouvert, qui, devinant hélas l'avenir des colombes, pleure sur des berceaux et sourit à des tombes. Mais je réclame encore votre attention, si vous me le permettez, pendant quelques instants. Cette leçon entre en contradiction complète avec la foi dans le progrès dont on veut si souvent faire de Victor Hugo le chantre naïf. Victor Hugo septuagénaire est pris ici en flagrant délit d'antimodernité. Mais aussi, la critique l'a déjà relevé, la dernière rime de ces derniers vers si admirés et si souvent cités par Valéry sera la première du cimetière marin, ce toit tranquille où marche des colombes, entre les pins palpites, entre les tombes. Les fins de la littérature des uns seraient les débuts de celles des autres. Ou pour le dire comme ce vers de Lucrèce que Victor Hugo commentait volontiers, notamment dans la préface de La Légende des siècles et dans Les Misérables, « Quasi cursores, vitae lampada tradunt ». Comme les coureurs, ils se transmettent les flambeaux de la vie. Un dernier mot, donc, sur cette ultime transmission. Maurice Barrès, dans ses mémoires, a mis drôlement l'accent sur ce Victor Hugo qui a su reconquérir sa place parmi les poètes contemporains. Sa pièce de vers en tête du tombeau de Théophile Gautier, écrit-il dans ses mémoires, « Ça, c'est des coups qu'on ne pardonne pas. » Elle leur criait bien autre chose que la supériorité de l'auteur, leur néant, et ainsi, chaque fois. Il était difficile de ne pas dire pour finir, car on n'en finira jamais, un mot, un seul mot, un dernier mot de l'enterrement de Victor Hugo, dont nous allons fêter cette année le 135e anniversaire. Car pour parler avec le négligé calculé de Barrès dans ses mémoires, comme fin de la littérature, il se pose là. Même si l'événement l'excède, on ne le voit que trop dans Les Déracinés ou dans ce cri « Le grand Pan est mort » qui sera de nouveau poussé, il a été vécu par beaucoup comme une mort de la poésie, ou d'une certaine poésie, comme il était le vers personnellement. Le paragraphe célèbre de Crise de vers de Mallarmé commence ainsi « Un lecteur français, ses habitudes interrompues à la mort de Victor Hugo, ne peut que se déconcerter. » Mais j'ai annoncé que je ne voulais en dire qu'un mot, et ce mot de trois lettres, pas de cinq lettres, je le trouve dans le discours du vicomte de Vauguet, qui reçoit Barrès à l'Académie française en janvier 1907. À la mort de Victor Hugo, lui rappelle-t-il sans doute en connaissance de cause, et là je lui cède la parole, « Comme les maréchaux de Napoléon après les adieux de Fontainebleau, vieux et jeunes auteurs s'écriaient en revenant du Panthéon, « Ouf !» Ils n'étaient pourtant pas encore au bout de leur peine, là c'est moi qui ajoute, puisque entre cette date, 1er juin 1885 et le centenaire de Victor Hugo en 1902, allait paraître chaque année, comme si la mort n'avait rien changé, un nouveau livre de lui. Mais c'est une autre histoire, celle précisément de ces chantiers sur l'océan par lesquels nous avons commencé. Merci.